Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Juliette Gadeau, Samuel Bernard, Clément Salazar, réalisée par Charles Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Alors que Donald Trump a finalement été désigné au terme d'une longue et difficile campagne, nous poursuivons notre semaine consacrée aux séries télé. Mais on ne sera pas complètement éloigné de ce qui fait l'actualité internationale ce matin. En effet, on avait prévu de parler donc ce matin des séries américaines et on a choisi une série qui représente bien les enjeux politiques, sociaux et sociétaux contemporains. Show me a hero. Show me a hero and I'll write you a tragedy, écrivait Francis Scott Fitzgerald en 1945. David Thompson, l'un des créateurs de cette série, mais aussi de The Wire, a choisi donc ces mots pour le titre de cette nouvelle série HBO, une mini-série de 6 épisodes réalisée par Paul Haggis et diffusée aux États-Unis depuis août 2015. Show Me a Hero qui raconte l'ascension et la chute fulgurante de Nick Vasisco, élu maire de la ville de Yonkers dans l'État de New York à seulement 28 ans et qui deviendra un peu malgré lui le défenseur de l'installation de logements sociaux dans les quartiers blancs de la ville. Show Me a Hero, un miroir des fractures américaines, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Premier point. Résolution 69, soutenue par le maire et l'adjoint du maire. L'affaire des logements requis suite au procès de l'État et de la NAACP contre la ville de Yonkers. Y a-t-il un débat ? Oui, j'ai quelque chose à dire. D'après moi, ce que fait le juge, c'est tout bonnement de la manipulation sociale. Et il n'habite même pas ici. Nous avons perdu le procès en question. La décision est claire. On a une responsabilité vis-à-vis des électeurs. Je refuse de laisser ce juge me dicter mes convictions. On court le risque d'être à la fois capable d'outrage et en faillite. Voilà la question. Ces nouveaux logements devront être construits. Voulez-vous participer ? Voulons-nous un projet raisonnable ?
Show Me a Hero, cette série donc américaine dont on vient d'entendre un extrait créé par David Simon, réalisé par Paul Haggis, diffusé, je le disais, depuis à partir d'août 2015 sur HBO. L'histoire se déroule de 87 à 94. Il y est question d'élections locales qui se déroulent dans cette ville de Yonkers, dans la banlieue de New York. On y voit la résistance extrêmement puissante de la classe moyenne blanche face à l'installation de logements sociaux. En effet, personne ne veut voir arriver près de chez soi ces habitations à loyer modéré de peur qu'ils n'entraînent une flambée de nuisance et de criminalité et que les maisons de ces quartiers voient leur valeur baisser sous l'effet de l'arrivée de ces familles noires notamment. Pourtant, le juge fédéral a rendu son jugement et comme l'impose la loi, la ville va devoir installer 200 logements sociaux dans des zones résidentielles blanches. Tension raciale, ségrégation sociale, politique du logement, âpreté du combat politique, poids du pouvoir judiciaire, autant d'enjeux présents dans cette série. Alors que nous dit cette série de la société américaine, de ses maux, de ses craintes, et que peut la politique pour y répondre? Comment les séries, et celle-ci en particulier, nous éclaire-t-elle, sur le scrutin qui a vu finalement la victoire de Donald Trump? Autant de questions qui seront les nôtres ce matin avec trois invités pour éclairer tout cela. D'abord Anne-Marie Paquet-Déris, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature américaine et de cinéma anglo-saxon et vous avez coordonné avec Marie-Hélène Baquet l'ouvrage collectif sur The Wire de David Simon qui a également fait donc Show Me a Hero dont on va parler. Marie-Hélène Baquet est également avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous sociologue et urbaniste, vous enseignez à l'université Nanterre Paris-Ouest La Défense. Et puis un troisième invité, un historien, c'est toujours bien d'avoir un historien dans ce genre de cas, bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste des États-Unis, un spécialiste aussi des questions question d'inégalité économique et sociale, ça tombe bien, ça va être au cœur de nos discussions ce matin. Alors évidemment, peut-être on va commencer par une réaction sur l'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, y compris durant la nuit, mais vers 4h du matin, lorsque commençait à se dessiner la victoire de Donald Trump, il y a un compte Twitter qui est intitulé Black Mirror. Alors c'est amusant parce que c'est le nom d'une série aussi, d'une série britannique, qui est une dystopie dans laquelle il est question de l'omniprésence de nos écrans, de téléphones, d'ordinateurs, de télé, et de leur impact sur nos vies. Et ce compte postait à propos de l'élection américaine, qui voyait donc Trump prendre l'avance sur sa concurrente. This is not an episode, this is not marketing, this is reality. Beaucoup ne voulaient pas croire, les médias, les observateurs, les politologues, et pourtant il a réussi à le faire. Je voudrais vous entendre peut-être les uns et les autres sur ce qui est quasiment un scénario de série télé. Romain Huret.
Je veux bien commencer. Pour moi, le scénario était pas écrit complètement, mais il y avait des indices très sérieux dans la société américaine qui montraient que l'élection était possible. J'ai toujours pensé qu'il fallait prendre Trump au sérieux, même si son programme ne l'était pas, même si l'individu ne l'était pas. En tout cas, il y avait derrière lui quelque chose qui se produisait, quelque chose qui se passait. Il y avait un mouvement qui était traduit par les journalistes, par les observateurs, dans plusieurs parties du pays, des banlieues, des centres-villes avec des populations déclassées. Et donc là, on n'est plus dans la fiction, on est bien dans la réalité, et Trump est président.
Marie-Hélène Baquet, en quoi justement cette série nous éclaire peut-être sur ce résultat ?
La série nous fait revenir dans les années 80 et sur des questions raciales aux États-Unis qui ressortent fortement aujourd'hui et qui n'ont pas été du tout réglées au cours des deux mandats d'Obama. On les a vus aussi rejaillir autour de tous les mouvements sur les violences policières. Donc elle nous permet de comprendre comment dans les années 80, alors juste après le mouvement des droits civiques, parce que l'épisode de Yonkers, c'est un épisode qui suit le mouvement des droits civiques et le fait que le mouvement des droits civiques, enfin des associations liées à ce mouvement, ont attaqué à la Cour suprême contre la ségrégation, les politiques de discrimination dont les populations noires faisaient l'objet. Donc ça nous permet de comprendre ce contexte-là et finalement de voir rejaillir, réapparaître ce racisme qui traverse quand même la société nord-américaine.
Anne-Marie Paquet-Déris, même question. Et puis peut-être une autre, celle aussi de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut justement s'appuyer sur l'analyse de ce qui reste quand même une série télé pour comprendre les enjeux contemporains du terrain.
Oui, alors je dirais surtout chez David Simon, évidemment, puisqu'il est un petit peu unique dans le paysage des séries télévisées américaines à justement se pencher sur ce type de problématique. Alors tout à l'heure, en vous entendant parler du site Black Mirror, en fait, ils ont repris le slogan d'HBO. Ce n'est pas de la télévision, c'est bien de la réalité, et c'est vrai. Alors, série dystopique, c'était intéressant, parce que pour beaucoup d'Américains, et je crois que l'incrédulité est quand même encore bien palpable, là, ce matin. Pour beaucoup d'Américains, évidemment, c'était quand même difficile d'envisager, même s'il y avait des signes, comme l'a dit Romain Huret, c'était difficile d'envisager une victoire, cette victoire-là.
Romain Huret, on sent ce matin combien on est en face finalement d'une Amérique divisée, et d'ailleurs on le sent très très bien, on va en reparler dans la série Chemier et Héros en question, mais on le savait déjà, mais la force d'un président et le devoir d'un président, c'est de parvenir, lorsqu'il est élu, à dépasser les divisions, à créer, à garantir l'unité du pays. Est-ce qu'il vous semble que Trump sera en capacité de le faire ?
Je fais souvent la comparaison avec Ronald Reagan. Il faut bien voir que lorsque Ronald Reagan est élu en 80, c'est une surprise aussi, il y a beaucoup d'incrédulité. On se demande comment un ancien acteur hollywoodien va pouvoir prendre en charge le pays. Beaucoup de monde, y compris au sein du Parti républicain, pense que son programme économique est totalement absurde, que ses idées économiques sont absurdes. Et finalement, aujourd'hui, lorsqu'on sonde les Américains sur les présidents du XXe siècle, c'est son nom qui revient avec celui de Franklin Roosevelt. Je ne sais pas du tout si Trump sera un nouveau Reagan. Je n'ai aucune capacité à prévoir l'avenir. Mais en tout cas, je pense qu'on est dans une situation assez identique, avec une élection étonnante, avec des signaux, comme on l'a dit, qui auraient pu on aurait pu, maintenant c'est facile de refaire l'histoire et de changer la stratégie d'Hillary, etc. Mais néanmoins, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à faire ce que d'autres ont fait. La démocratie américaine a montré qu'elle était suffisamment plastique. Les institutions étaient suffisamment plastiques pour accepter des personnages un peu étonnants.
Reagan n'était pas plastique et en même temps extrêmement solide. Et c'est ce qui peut-être peut nous permettre de ne pas avoir tant de craintes que cela. C'est qu'en réalité, et on le voit d'ailleurs dans la série, on va parler dans un instant, on ne peut pas tout faire. Même quand on a une volonté, une détermination forte, on a aussi derrière des institutions qui sont extrêmement solides et qui garantissent quand même le bon fonctionnement de la démocratie.
Mais c'est parce que souvent les politiques disent c'est parce qu'elle est plastique qu'elle est solide. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger on peut trouver des... En France, on change régulièrement de république. Aux États-Unis, on a les mêmes textes fondateurs et on n'en change pas. Donc, c'est cette plasticité qui permet la solidité.
Marie-Hélène Baquet, Show Me a Hero, quand Vasisco est élu maire de Yonkers, de cette ville de Yonkers, qui est élu d'ailleurs sur la promesse de s'opposer à la construction de ses logements sociaux, il va rapidement se retrouver justement confronté à l'implacable réalité, voilà, celle du juge, d'un juge qui condamne la ville à exécuter une ordonnance fédérale qui oblige la ville de construire ses fameux projects, ses logements sociaux. La première des leçons peut-être de Show Me a Hero, c'est justement ça, c'est celle de la réelle politique. Tous les responsables politiques sont confrontés à un moment à la réalité de l'exercice du pouvoir. Et c'est ça dont il est question aussi dans Show Me a Hero.
Oui, tout à fait. La réalité de l'exercice du pouvoir entre, d'un côté, un juge de la Cour suprême qui impose vraiment que la municipalité mette en place tienne compte du jugement et construise ses 200 logements, et de l'autre côté, la réaction des classes moyennes blanches qui se mobilisent contre ces projets. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans d'autres villes, puisqu'il y a eu plusieurs arrêtés. Alors, qui ont été plus ou moins suivis, et ça a souvent pris beaucoup de temps. Par exemple, à Chicago, il a fallu 20 ans pour que l'arrêté de la Cour suprême, dans l'opération qu'on a appelée Gautreau, du nom de la militante des droits civiques qui avait attaqué la municipalité de Chicago, pour que donc cet arrêté soit... Enfin, la ville en tienne vraiment compte. À Yonkers, ça va finalement relativement assez vite, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où ces arrêtés ne seront pas respectés. Donc, le rapport avec la loi est quand même très différent selon les lieux.
Anne-Marie Paquet-Déris, il y a aussi une autre leçon qu'on peut tirer de Show Me a Hero. Au début de la série, Nick Vasisco, c'est pas du tout un politique très connu. Il est conseiller municipal, certes, mais personne ne le connaît. Et d'ailleurs, c'est ce qui va permettre finalement à ce personnage de d'emporter la victoire. Parce qu'en réalité, sa victoire, elle s'est construite précisément sur le rejet de la classe dirigeante en place. Et là, d'une certaine manière, ça fait terriblement écho avec la réalité. Trump, c'est le candidat, évidemment, de l'antisystème. Ça nous dit beaucoup sur le rejet, aujourd'hui, des Américains de leur classe politique, qu'on n'avait peut-être pas, justement, mesuré à sa juste valeur. On la voit, là, apparaître. Oui. Et dans la fiction, et dans la réalité.
Oui. Oui. Enfin, il est quand même au départ, Nick Vasisco, en faveur de la résistance. Il change dès qu'il est élu maire parce qu'il s'aperçoit que appliquer ce décret fédéral, ne pas appliquer ce décret fédéral est absolument impossible. Donc, il représente, j'allais dire très brièvement quand même, la résistance à certains modes de gouvernance. Et d'ailleurs, Martinelli, qui est le maire qui est sortant, a une réflexion, une remarque très intéressante. Il dit « Je m'attends à une campagne tranquille, calme, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer mon adversaire. » Je trouve que ça, c'est un écho, comment dire, assez parlant et assez cruel de ce qui vient de se passer aux États-Unis cette nuit.
Show Me a Hero, donc la fiction, extrait encore.
C'est l'heure de vérité, l'heure de mettre les choses à plat. Yonkers ne doit pas devenir le symbole du non-respect du droit civique, ni continuer à se couvrir de honte. Ce tribunal a tout mis en œuvre pour que la ville prenne ses responsabilités. Je n'ai d'autre choix que de déclarer Yonkers coupable d'outrage à la cour et de lui infliger une amende de $100 dès aujourd'hui.
Et impose une pénalité de $100 par jour, beginning today. A fine that will double every day hereafter.
Cette amende doublera chaque jour.
As for you, councilman, how much hypocrisy must accompany this litigation?
Messieurs les conseillers, vous avez été bien hypocrites dans cette affaire. Je déclare messieurs Longo, Fagan, Chema et Spallone coupables d'outrage à cette cour. Je vous condamne à une amende de $500 par jour. En outre, si la résolution n'est pas votée avant mercredi prochain, vous serez incarcéré jusqu'à ce que vous obtempériez en votant pour le projet de constitution. L'audience est levée.
Voilà, le juge a décidé, la loi s'applique. Romain Huret, ça c'est aussi une leçon de Shomi Hero, qui est vraiment très très prégnante aux États-Unis. C'est qu'au-dessus de la politique, au-dessus du politique, il y a la justice. Finalement, c'est cette primauté de la justice aux États-Unis.
Et du droit, hein,
du droit.
La nécessité de respecter le droit, bien évidemment. Ouais, c'est une grande leçon de la série, mais peut-être par rapport à ce qui a été dit précédemment, moi je trouve que c'est aussi une formidable série sur l'action politique. Et c'est une série qui s'adresse beaucoup à Hillary Clinton et au Parti démocrate, à ce qui est devenu le Parti démocrate et la manière de faire de la politique. La politique, c'est du courage, la politique, c'est des idées, des convictions, et bien évidemment, il y a de la résistance. Et on a le sentiment, on l'a eu un petit peu avec Obama, ce sentiment que la modération, la recherche de consensus, etc., éviter cet affrontement direct. Et moi, j'adore cette série parce que je trouve qu'elle nous rappelle, voilà, il n'y a pas de décision politique d'importance qui n'entraîne pas des résistances, qui n'entraîne pas des violences. Et donc, il faut être prêt à aller à affronter ce combat-là.
Vous parlez de conviction, pardon de vous couper, mais précisément dans cette série, au départ, il a des convictions, ce maire de Yonker, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la construction de ses logements, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il va l'emporter, sauf que finalement, à l'arrivée, il va être contraint de défendre l'idée de la construction des logements, donc les convictions vont être obligées de les mettre un peu de côté quand même.
Mais ça nous rappelle ce qu'est la politique. La politique, c'est cela, voilà, c'est affronter le terrain, il y a une manière de faire de la politique chez les démocrates qui est très gestionnaire, qui est très en haut, qui est éloignée des réalités du terrain. Là, on se rend compte concrètement de ce qu'est la politique, de ce qu'est l'opposition, de ce qu'est aussi la démocratie américaine. Et c'est pour ça que je trouve cette série formidable.
Marie-Hélène Baquet.
Oui, et ce que montre Simon, c'est que la déségrégation, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Quand le pouvoir politique se met en branle, il peut réaliser du logement social dans des quartiers aisés, malgré la révolte des classes moyennes blanches. Et c'est vrai que quand on regarde l'action d'Obama pendant les deux mandats, il a fait très peu finalement sur les politiques du logement. Les programmes qu'il a fait sont dans la lignée des programmes précédents. Il n'y a pas eu de rupture de ce point de vue-là. Et je crois que c'est effectivement un rappel à l'ordre. Peut-être parfois d'ailleurs même un peu optimiste.
Vous parliez de la colère justement. Elle est là, la colère, dans cette fiction.
Pourquoi vous n'appliquez pas la règle de la majorité? On n'est plus en Amérique, vous n'êtes qu'une bande de dégonflés.
Les gens de ces cités vont faire venir la criminalité dans nos quartiers et faire chuter la valeur de nos maisons.
Vous aviez promis de faire appel, de ne pas signer d'accord. Vous avez réussi à violer les électeurs de Yonkers.
Je pense que vous allez regretter le jour où vous vous êtes lancé en politique. Profitez de vos deux dernières années au Conseil. Quelle honte! Vous devriez avoir honte!
No more lies. Là, on a vraiment l'impression d'entendre des supporters, des partisans de Donald Trump. Ces cités, les gens de ces cités vont faire venir la criminalité dans nos quartiers et faire chuter la valeur de nos maisons. Ce que montre aussi cette série, Anne-Marie Paquet-Déris, c'est la puissance de la communauté. C'est-à-dire que vous avez beau avoir des politiques extrêmement puissants, extrêmement déterminés, si en face vous avez une communauté qui est déterminée elle aussi et unie, finalement les politiques ne peuvent pas l'emporter. Finalement, ce que Simon essaye de montrer ici, c'est peut-être une forme de consécration de la communauté face à l'individu. C'est d'ailleurs assez en contradiction finalement avec l'idée que peut-être qu'on a des États-Unis, un pays où justement c'est l'individu qui est au centre de tout.
Oui, c'est pour ça qu'il a quand même un statut un petit peu à part dans le paysage fictionnel américain. Il est très intéressé par, je dirais presque, tous ces mouvements de démocratie participative sous différentes formes. Il l'a beaucoup fait dans The Wire. Il le refait dans Tremé. Et ce qui l'intéresse, c'est la ville. Comment on modèle la ville? Quelles sont les forces qui sont à l'œuvre pour que la ville survive? Et pour lui, finalement, il a des chiffres assez précis en tête. Hein. Il a visiblement travaillé justement, probablement avec des historiens, des sociologues, etc., où il dit, et puis il a été journaliste aussi quand même, où il dit finalement un pourcentage immense de la population américaine de toute façon vivra en ville d'ici un horizon très proche. Il faut trouver des moyens d'une gouvernance qui soit équitable.
Mmh. Oui, vous parlez de la ville. Ce qui est intéressant chez Simon, c'est qu'elle est vraiment constitutive de la nature de notre humanité aujourd'hui. Je le cite, nous sommes une espèce urbaine désormais, oui, dit-il. Oui. Si vous jetez un œil à Karachi, à Mexico City, à Hong Kong, à Londres, à New York, à Yonkers, à Baltimore ou à tout autre lieu de ce type, vous comprendrez que la pastorale appartient désormais à l'histoire. De deux choses l'une, dit-il. Soit nous parvenons à comprendre comment vivre ensemble dans ces centres de population de plus en plus peuplés et de plus en plus multiculturels, soit nous n'y parvenons pas. Soit nous réussissons avec brio, soit nous échouons et cet échec sera celui de notre espèce tout entière. Voilà ce qu'il disait en 2000, il y a un an ou deux ans, oui, au moment de la sortie de la série, Marie-Hélène Baquet. C'est vrai que c'est une déclaration par laquelle on comprend l'importance pour David Simon de parvenir à créer de la mixité sociale dans nos villes.
Oui, mais ce qui est intéressant dans toutes ces séries d'ailleurs, c'est que il a une vision très large de la ville, c'est-à-dire qu'il ne va pas simplement nous montrer le ghetto ou un quartier de classe moyenne blanche, mais il va les mettre en relation, ce qui permet de comprendre quels sont les processus qui transforment la ville et de comprendre que ce qui se passe dans le ghetto n'est pas lié seulement aux habitants du ghetto. Et c'est donc vraiment une approche très très systémique. Et il y a dans ces trois séries une dénonciation quand même du système capitaliste, de la réalité politique nord-américaine qui est très forte. C'est une charge politique très importante, une prise de position qu'on voit sous différentes formes dans les trois séries.
Mmh. Romain Huret, dans Show Me a Hero, le racisme, disons-le, de la communauté WASP n'est pas directement affiché. On parle de liberté de choisir son environnement, on parle d'incompatibilité entre les modes de vie, on parle, en tout cas supposé, on parle de la cohérence du quartier, on parle de besoin d'homogénéité. Ce qu'on voit très bien, c'est que le racisme avance masqué, finalement. Il est jamais vraiment revendiqué.
Il est souvent codé, mais il est très présent derrière les mots, derrière les prises de parole. On le perçoit bien. Mais je trouve ce qui est intéressant dans la série, c'est il a une vision assez, il essaye d'avoir une vision la plus symétrique possible entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'il se place pas, il y a pas des bons et des méchants. C'est-à-dire qu'il essaye d'entendre dans l'extrait que vous montriez que des gens soient inquiets de la dépréciation de leur maison. Je trouve qu'il leur donne une voix. On les entend et c'est tout à fait logique. On peut comprendre parfaitement que des gens qui investissent, on sait très bien quel est le rôle symbolique de la maison, quel peut être l'effort financier qui est fait aussi pour avoir accès à une maison, etc. Et donc que des gens dans un conseil municipal soient inquiets et expriment cette inquiétude est tout à fait normal. Donc je pense qu'il essaye, bien évidemment, on voit très bien, il évoque également le racisme institutionnel, le racisme feutré, masqué, etc. Mais je trouve ce qui fait, moi, ce que j'aime dans ces séries, c'est qu'il essaye de mettre, d'avoir une approche assez symétrique entre tous les acteurs pour montrer exactement ce qui était dit précédemment, comment on vit en communauté et comment ces discours se juxtaposent sans qu'il y ait forcément des bons et des méchants. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de personnages qui au début sont contre, qui ensuite deviennent pour. Oui. Et je trouve cette complexité-là est intéressante parce qu'elle, oui, elle renvoie vraiment au débat. Vous avez dit que ça criait beaucoup au conseil municipal, ça hurlait. Mais quelque part, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est ça aussi la démocratie. Il faut que les voix s'expriment dans un conseil municipal. C'est le rôle c'est la fonction de la démocratie d'écouter les individus. Il est normal que des décisions qui sont votées par un conseil municipal puissent susciter des résistances. Et c'est ça le travail du politique, en quelque sorte. C'est d'écouter ces résistances, c'est de négocier. On a évoqué le terme de démocratie participative, et je crois que Simon s'aime beaucoup ça, ouais, l'idée que les citoyens se réapproprient la politique. Moi, je trouve ça plutôt, c'est plutôt une bonne chose, en fait, quand j'entends les gens crier et les gens qui sont mécontents. Ça veut dire qu'on fait de la politique plutôt que d'avoir des gens silencieux qui vont se sentir à l'écart de la politique et qui vont exprimer des votes dangereux ou extrémistes. Je préfère qu'il y ait des lieux de discussion et de conflit. La démocratie, c'est aussi du conflit.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, là je reviens à la réalité, vous parlez de racisme institutionnel. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump pourrait pas, d'une certaine manière, libérer cette forme de racisme dont je disais tout à l'heure qu'il était un peu dissimulé, qu'il avançait masqué? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se retrouver demain avec le retour d'une Amérique raciste, alors qu'avec Obama, on nous avait prédit l'arrivée, l'avènement d'une Amérique post-raciale.
Je fais partie des gens qui n'ont jamais cru à l'Amérique post-raciale. Et de toute façon, le racisme aux États-Unis n'a pas attendu Donald Trump pour exister. Il y a un racisme institutionnel qui est très fort. Alors c'est certain que la parole s'est libérée, il y a des formes de libération de parole qui sont tout à fait étonnantes, mais je pense que de toute façon le racisme institutionnel est là, donc ça n'a pas changé beaucoup de choses, l'arrivée de Donald Trump pour les Afro-Américains ou d'autres communautés, dans l'immédiat en tout cas.
Anne-Marie Paquet-Héris.
Oui, il y a un personnage qui me fascine dans cette série, Show Me Your Hero, c'est le personnage qui est joué par l'actrice Catherine Keener, Mary Dorman, et c'est la façon dont elle évolue en fait. C'est très intéressant parce que quand elle comprend qu'en étant contre l'arrivée de ces 200 unités de logements sociaux, elle va finalement être assimilée justement à une masse de ces citoyens en colère qui finalement, dont finalement le racisme n'est pas si masqué que ça. Alors ça enclenche un processus de réflexion et elle commence à se désolidariser. Et je trouve très très fine cette façon qu'a eu Simon de d'analyser vraiment par le menu pas vraiment le basculement parce que le basculement c'est trop rapide, mais l'évolution pas à pas de ce personnage qui finalement va en arriver à découvrir les nouveaux arrivants, donc majoritairement des Afro-Américains et des Hispaniques, et finalement prendre leur défense et les aider à l'insertion.
C'est vrai que c'est très intéressant l'évolution de ce personnage qui arrive à un deuxième épisode, je crois, de mémoire, et qu'on voit ensuite jusqu'à la fin. Marie-Hélène Baquet, sur la question des politiques du logement, parce que ce qu'on constate aux États-Unis, évidemment, on le sait, c'est une véritable concentration des logements sociaux qui sont majoritairement regroupés dans certains quartiers des villes. Vous dites que la ville nord-américaine, elle est particulièrement ségrégée, c'est quelque chose qu'on sait. Mais d'où vient cette concentration historiquement des logements sociaux? À quand ça remonte? Et pourquoi, finalement, cette ségrégation raciale, spatiale, se poursuit alors même que justement il y a quand même des politiques qui sont là pour lutter contre, pour essayer de créer, même si ça ne fonctionne pas toujours, mais pour essayer de créer de la mixité sociale.
Alors il faut quand même nuancer, le logement social c'est moins de 2% du parc de logements aux États-Unis. Hein, en comparaison, en France c'est 18%.
Normalement, vous voulez dire, selon la loi.
Non, c'est 18% en France. Oui, voilà, oui. L'objectif c'est d'arriver à 20-25%, mais c'est 2%. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui est totalement marginal. Et aux États-Unis, le logement social a été très très vite détourné pour du logement vraiment pour les populations les plus en difficulté, des handicapés, des gens qui avaient de gros problèmes sociaux. Il a été très très mal géré. Et en fait, dès la fin des années 60 et avec l'arrivée de Nixon, il y a un arrêt qui est donné à la construction de logements sociaux. Et donc, le logement social n'est pas une politique publique aux États-Unis. Par contre, ce qui est une politique publique, c'est le développement de l'accession à la propriété, le développement de l'accession à la propriété qui va être beaucoup aidé par l'État fédéral et qui va conduire à ce qu'on appelait le white flight, c'est-à-dire le départ des classes moyennes blanches des centres-villes qui vont aller habiter dans de nouveaux quartiers, qui sont des quartiers d'accession à la propriété. Donc, les politiques publiques du logement aux États-Unis sont des politiques qui ont incité à la ségrégation et à la racialisation de la ville nord-américaine. Et depuis, c'est vrai, il y a eu quelques programmes, notamment un programme qui s'appelle Moving to Opportunity.
Du côté de Chicago.
Voilà. Et Moving to Opportunity est un programme qui suit celui de Chicago, qui est un programme dans 5 grandes villes américaines. Mais c'est 2000 familles qui ont été déplacées. Donc c'est totalement...
C'est beaucoup trop marginal, vous voulez dire.
C'est complètement marginal. Donc il y a quelques expérimentations, mais c'est une petite pierre vis-à-vis d'un grand courant qui est un courant qui continue à accélérer la ségrégation dans les villes américaines, avec aujourd'hui un nouveau phénomène qui est la gentrification des centres anciens.
Anne-Marie Paquet-Héris, sur cette question du logement social.
Il y a la HUD, cette agence-là qui a justement, c'est très paradoxal de penser que c'est une agence qui fédérale, qui octroie des budgets massifs et que paradoxalement on en arrive à ce type de ségrégation.
Ce sont des budgets qui restent quand même très marginaux par rapport à ce qu'est la politique du logement, est-ce que la production du logement aux États-Unis et Obama finalement s'est inscrit dans la poursuite de ces politiques. Il a lancé 2 programmes, mais qui sont restés des programmes expérimentaux qui n'ont jamais vraiment développé, par exemple, la construction de logements sociaux et surtout qui s'appuient beaucoup sur le niveau local, sur du partenariat avec le privé et qui vise, dans la suite des programmes mis en place par Clinton, notamment un programme qui s'appelle Hope 6, à démolir les quartiers d'habitat social, à disséminer les populations les plus précaires, mais en même temps sans s'assurer que ces populations pourront être relogés.
Hope 6, qui était un programme qui avait été lancé en 1992.
Oui, par Clinton.
Là aussi, il y avait des effets très marginaux. Romain Huret, peut-être sur cette question des politique du logement, peut-être une forme de bilan de ce que a fait Barack Obama en la matière.
Je pense que aujourd'hui le problème du logement, il se pose moins peut-être en termes de logements sociaux, même si bien évidemment ça se pose toujours en ces termes, qu'en termes d'expulsion. L'Amérique d'aujourd'hui, c'est une Amérique où on expulse énormément. Il y a je renvoie vos auditeurs à un très beau livre d'un sociologue qui s'appelle Matthew Desmond, qui s'appelle Evicted, où c'est la première histoire quantitative et qualitative de l'expulsion. Et il montre qu'il y a, il y a un travail sur la ville de Milwaukee, mais ça peut être fait pour l'ensemble du pays. Le nombre d'expulsions a complètement augmenté depuis 2008. C'est un phénomène nouveau, parce qu'on n'expulsait pas beaucoup aux États-Unis jusqu'à la fin des années 90. Aujourd'hui, on expulse de manière massive. Donc, il y a beaucoup de gens...
Pour quelle raison et quelle responsabilité pour Obama ?
C'est très difficile, parce que, comme on l'a dit, la politique nationale est pas du tout, n'a pas du tout le même effet en matière de création de logements sociaux. Donc, Obama a sans doute sa responsabilité, mais là, je parle du parc privatif, des logements sociaux. Et c'est massif et ça touche très durement une grande partie de la population afro-américaine, mais également blanche. Hein. Les mobilhomes, les fameux mobilhomes, les trailer parks où vivent les Américains blancs ou afro-américains les plus pauvres, on voit très bien, on arrive à voir là l'un des signes de la crise dont je parlais tout à l'heure. C'est centaines de milliers de personnes qui vivent dans des mobilhomes n'ont pas accès au logement, n'ont pas accès au parc de logements sociaux. Et donc la situation s'est objectivement dégradée. Juste un chiffre, après j'arrête. La crise de 2008 met sur enlève la maison à 12 millions de personnes. Vous imaginez le nombre de gens qui ne peuvent plus payer. La maison va être saisie par les banques. Et donc soit ils vont retourner chez leurs parents, soit ils vont vivre dans des mobilhomes. 12 millions de personnes, c'est un chiffre considérable et qui... être mis en lumière.
12 millions qui sont encore aujourd'hui sans logement ?
Qui ont trouvé des logements. Il y a une étude par les sociologues. On a du mal à voir où est-ce qu'ils sont chez eux. Est-ce qu'ils vivent dans les mobilhomes ? On a eu du mal à tracer les itinéraires. C'est très difficile. Mais néanmoins, le chiffre est considérable et montre bien l'ampleur de la crise du logement aux États-Unis.
Marie-Hélène Baquet, encore un mot.
Oui, et cette crise du logement touche à la fois des populations blanches pauvres, précarisées, dont on a effectivement peu parlé et qui se sont sans doute peu retrouvées dans le débat politique, à part par la voix de Trump, et les minorités, notamment la minorité noire, et notamment les femmes dans cette minorité, puisqu'une partie des hommes quand même est incarcérée aujourd'hui. Et donc les femmes sont les premières victimes de ces évictions qui sont effectivement un phénomène massif aujourd'hui.
Au lendemain donc de cette élection du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, Show Me a Hero, un miroir des fractures américaines, c'est notre sujet ce matin avec Anne-Marie Paquet-Déris, Marie-Hélène Baquet, mais aussi Romain Huret.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je ne suis pas comme ces lâches qui font des courbettes à un taré de juge, je ne mets pas de pampers. J'ai juré de vous défendre et je vais respecter mon engagement. Et j'ai un message pour le juge Sand. Allez vous faire. Vous voulez m'enfermer ? Je vous attends.
Encore un peu et c'est l'émeute.
M'en parlez pas, ils ont saisi 4 flingues à l'entrée.
Voilà, alors cet homme qu'on entendait, c'était pas Donald Trump, on aurait pu croire ça, mais c'était Spallone, c'est un membre du conseil municipal qui refuse de se plier à la décision du juge et qui coûte que coûte suit ses électeurs pour s'assurer peut-être en partie leur vote. Extrait encore de Show Me Hero. On va retrouver un nouvel invité, c'est Xavier Briggs, il est sociologue, c'est un sociologue américain, il est professeur au département études urbaines du Massachusetts Institute of Technology. Qu'est-ce qu'une série justement comme Show Me Hero peut apporter à l'étude sociologique ? Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer très concrètement ? Il répond au micro de Tiffaine de Rocchini.
Oui, alors c'est une question importante. Les séries comme celle créée par David Simons permettent de mettre un visage humain sur des questions qui peuvent paraître abstraites ou aseptisées pour les étudiants et le grand public. Et ça constitue un vrai défi, pas seulement pour les États-Unis, de faire comprendre au public, de produire une vision à la fois analytique, mais aussi empathique et morale de ces conditions de vie difficiles, et de poser des questions sur l'avenir et sur le type de société que nous sommes en train de devenir et que nous souhaiterions voir advenir.
David Simon's work is extraordinary in this regard.
Et je pense que de ce point de vue, le travail de David Simon est extraordinaire. Il arrive à raconter des histoires qui ont tellement de niveaux de lecture et nous faire sentir comment des personnes placées dans les situations les plus diverses peuvent vivre une même suite d'événements, que ce soit un jury imposant la déségrégation des logements sociaux à Junkers, cas célèbre datant d'il y a maintenant près de 30 ans, ou la restructuration, les transformations d'une ville comme Baltimore, ce qui a été montré à merveille dans The Wire. Alors donc, comme je disais, d'un côté, on a accès à cette vision kaléidoscopique d'un événement, comment différentes existences sont prises dans des événements plus globaux, mais il y a aussi, et c'est vrai, d'autres artistes, de romanciers, poètes et musiciens de talent. Il a attiré d'ailleurs l'attention sur des choses que l'on tend à négliger dans les sciences sociales. Et j'ajouterais même qu'un des usages que l'on pourrait faire de cette série est de nous en inspirer pour raconter nos propres histoires à notre manière. Je vois cela comme un véritable horizon pour la sociologie et les sciences sociales en général, parce que trouver de nouvelles façons de marier le discours analytique à un récit percutant qui fasse appel au sens moral, à l'empathie, et qui ne parle pas seulement à la partie gauche du cerveau.
Show Me a Hero résonne de façon étrangement contemporaine. 30 ans après l'expérience de Yonkers et près de 10 ans après la crise des subprimes, rien n'a changé aux États-Unis. La ségrégation sociale, raciale, c'est toujours une réalité aussi forte.
Les ségrégations raciales et économiques sont toujours très fréquentes aux États-Unis. La ségrégation selon le niveau de revenus a même augmenté ces dernières années. Et très honnêtement, c'est un pays que les États-Unis, mon pays, semble redécouvrir à intervalles réguliers. Je me dis qu'on a même l'habitude de le redécouvrir quand je me sens pessimiste. On a redécouvert après les émeutes de Los Angeles en 92, après Katrina en 2005, après les événements de Ferguson dans le Missouri, dans toutes les communautés qui se sont déchirées, après le meurtre noir américain par des policiers. Alors on le découvre, on le redécouvre constamment, et on se souvient alors que c'est l'une des grandes forces à l'œuvre dans notre pays qui participe à la reproduction des inégalités, à l'ignorance et aux conflits interraciaux. Et puis on réalise rapidement qu'il est trop dur de faire quelque chose, et chacun s'en retourne à ses petites affaires. Cependant, les tendances ont quand même un peu évolué et le fait est que le célèbre procès et l'ordre de mise en œuvre à Yonkers dont parle Show Me a Hero ont eu des effets spectaculaires. Cela a créé de nouveaux logements, comme on le voit dans la série, qui ont réussi à se fondre dans la communauté blanche, à produire ce que vous appelez en France la mixité sociale. Ça a été dans l'ensemble un succès. Des liens sociaux ont été créés, illustrés dans la série par les rencontres entre voisins. Mais si on prend le pays dans son ensemble, les logements sociaux restent la plupart du temps assez isolés et très stigmatisés. Alors cet aspect n'a pas changé, et c'est aussi le cas dans les grandes capitales européennes. Les régions les plus prospères sont aussi les moins abordables, donc on observe une tendance à la concentration des logements sociaux donc dans les zones très denses, de plus en plus isolées du reste de la société. Où certes les logements sont à loyer modéré, mais peu de choses sont faites pour l'intégration, pour améliorer les conditions d'accès à la santé, à accroître les opportunités économiques. Et c'est un vrai problème. Un des effets les plus spectaculaires de la crise des subprimes concerne les propriétaires qui ont perdu leur maison, qui étaient de façon disproportionnée des gens de couleur, pour la plupart disposant de faibles revenus. Il y a eu une baisse spectaculaire de la valeur de ces propriétés, à hauteur de centaines de milliards de dollars, et beaucoup de familles pourront récupérer cet argent avec le temps. Ce n'est pas une perte de richesse permanente, mais c'est un énorme choc dans un pays où les écarts de richesse augmentent. Par exemple, cet écart est plus important aujourd'hui entre les Noirs et les Blancs qu'il n'était il y a 30 ans. Donc on a reculé sur cet aspect.
Mais selon vous, est-ce que l'expérience de Yonkers est vraiment le meilleur moyen de lutter contre les ghettos? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler à réhabiliter ces quartiers laissés à l'abandon?
J'ai travaillé pendant des années et écrit un livre, Moving to Opportunity, sur des projets relativement similaires à l'expérience des Yonkers, mais sur plusieurs villes et dans des zones urbaines plus grandes. New York, le Grand Boston, Chicago, Los Angeles. Et rien qu'à Los Angeles, c'est presque un petit pays. C'est tellement grand. Vous avez plein de communautés différentes, d'univers sociaux, de types d'écoles. On a vu plein de jeunes qui s'adaptaient très bien. C'était difficile au début. Ils ont découvert que la façon dont il présentait, dont il parlait était différente des autres jeunes du nouveau groupe de pères. Mais ils valorisaient cela et pour eux c'était presque comme visiter un autre pays, acquérir de nouvelles façons de parler, un nouveau système culturel, diversifier leur répertoire. Et nous on a remarqué que ce qui les faisait réussir c'était de s'intégrer en rejoignant un club, une activité qui leur procurait du sens social et aussi le fait d'avoir été confronté à un monde autre que la maison par le biais d'une relation, d'un ami de la famille. Ça leur permettrait de voir cette visite, cette expérience d'un autre univers social de façon positive, de ne pas être sur la défensive. Et ces choses-là permettent de prédire assez bien la façon dont ils s'acclimateront, dont ils vont s'intégrer. Les conséquences sur leur vie alors sont énormes. Ils ont accès à d'autres professions. Ils ont davantage la capacité de bouger, de vivre dans d'autres communautés. Mais cependant, ça ne va pas sans perte. Il est souvent plus difficile pour eux de comprendre leur groupe d'origine et de se sentir lié à leur ancien quartier. Mais c'est un des truismes de la vie en général. Quand on s'adapte, on a de nouveaux groupes et il devient plus difficile de comprendre ceux dont on vient.
Voilà, Xavier Briggs, donc sociologue américain, professeur à l'Institut, au département études urbaines du Massachusetts Institute of Technology. Peut-être Anne-Marie Paquet, d'Eris, une réaction sur ce que vous entendez, sur les propos de Xavier Briggs, et puis généralement sur la question aussi peut-être de l'effet d'une série comme Show Me a Hero,
oui.
L'effet sur la société. Parce que pour reparler d'une autre série de Simon, The Wire, on avait là des individus qui étaient pour la plupart pas des acteurs professionnels. Et c'était aussi peut-être l'une des forces de la série. C'est-à-dire que ça rendait ce qui est à la base une série aussi. Ça devenait d'une certaine manière un message politique. Tout à l'heure, Romain Huret disait c'est aussi Show Me a Hero, c'est aussi un message politique à l'adresse en particulier des démocrates. On peut s'interroger sur la question de l'effet d'une série comme Show Me a Hero sur la société cette fois.
Oui, je crois que il a un statut culte maintenant, donc chaque série de David Simon est désormais attendue comme je ne vais pas faire de métaphore religieuse, mais donc il y a cet effet d'annonce déjà, et puis il y a un terme qu'a utilisé Martin Briggs qui est intéressant, qui est kaléidoscopique. Il utilise très souvent la dimension chorale. Et le titre ici, Show Me a Hero, est presque paradoxal parce que, certes, c'est une citation de Fitzgerald, et il y a toute la dimension tragique à la clé, mais en même temps, il n'y a pas un seul héros, et finalement, Wes Cisco n'est pas véritablement un héros dans la série. Et c'est cette dimension chorale qui fait qu'on arrive justement à s'identifier. Ce pouvoir d'identification, il fonctionne de façon très large dans la société américaine.
Et ça a fonctionné justement dans la société américaine. C'est une série qui a marqué les esprits, Marie-Hélène Baquet.
Non, je pense que c'est une série qui est effectivement très attendue par les classes intellectuelles, mais qui est pas une série qui a été vue très très largement.
Moins.
Déjà, voilà, c'est
moins que The Wire.
Mais c'était déjà un peu le cas pour The Wire, qui a eu un vrai succès, mais quand même un succès confiné dans un certain groupe social. Show Me a Hero, c'est la même chose. Je voudrais réagir sur un autre point de ce qu'a dit Xavier Briggs dans cette interview. Les résultats des opérations de mixité sociale sont parfois assez ambigus. Il y a eu beaucoup de travaux nord-américains avec beaucoup de controverses parmi les chercheurs nord-américains sur les effets de ces expériences. Et par exemple, à Yonkers, on sait que 30% des ménages qui ont été relogés dans cette opération sont revenus dans leur ancien quartier. On sait notamment que beaucoup d'enfants sont restés dans les écoles du ghetto. Donc les résultats sont assez contrastés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer ce type d'opération, mais je pense qu'il faut être aussi mesuré sur leurs effets de transformation réelle, notamment auprès des ménages concernés.
Alors, on va se diriger doucement vers la fin de cette émission, parce qu'aux États-Unis, on l'a entendu, les inégalités sociales n'ont jamais été aussi importantes. Les écarts entre les riches, les plus riches et les plus pauvres n'ont jamais été aussi grands. Et évidemment, ça va être l'un des défis du prochain président américain que de combler ces inégalités. Alors, pour ceux qui auraient peut-être raté un épisode et qui se réveillerait que maintenant, pourquoi pas. Pour rappel, c'est lui le nouveau président. C'était il y a quelques heures.
Les hommes et les femmes de ce pays ne seront plus négligés.
We are going to fix our inner cities.
Nous allons apporter de l'aide aux zones défavorisées, reconstruire les infrastructures, les hôpitaux, les aéroports. Nous allons reconstruire cette infrastructure.
Which will become
Et ces équipements seront les meilleurs au monde. Nous allons donner des emplois à des millions de gens, d'Américains, au fur et à mesure que nous reconstruisons cette infrastructure. Et je vais réaliser le potentiel des meilleures compétences pour l'avantage de chacun.
Voilà, je vais redonner des emplois aux Américains. C'est donc le discours de Donald Trump il y a quoi, un tout petit peu plus de 3 heures maintenant. Romain Huret, Trump a fait toute sa campagne sur la promesse de rendre sa grandeur et sa prospérité au pays, de redonner des emplois à tous ceux qui les ont perdus sous l'effet de la mondialisation pardon, et de la désindustrialisation. Maintenant que la campagne est terminée, les discours vont laisser place aux actes. Comment est-ce qu'il va s'y prendre, Romain Huret? Est-ce que vous avez compris?
C'est une question très difficile, peut-être pour faire un lien avec la série et répondre à votre question. Il y a une statistique que je cite souvent, une statistique démographique, qui renvoie aux protagonistes de Show Me Your Hero, qui sont des hommes qui ont entre 40 et 55 ans. On observe des hommes blancs. Il y a une statistique démographique qui montre depuis 20 ans que ces hommes blancs ont un taux de mortalité qui est anormalement élevé au regard de tout ce qui se passe dans les autres pays européens, à l'exception de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'ils meurent plus. Partout, la courbe descend, ce qui est logique. On vit mieux, on est plus âgé, on est protégé, etc. Pas aux États-Unis où la courbe augmente de manière anormale. Et je pense que le défi de Trump, aujourd'hui, les gens de Show Me Your Hero sont des gens qui seraient malades, qui se suicideraient, qui auraient des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Le défi de Trump, il est sans doute là. C'est que son électorat est là. Il souhaite un État plus protecteur. Il souhaite un État qui leur redonne du travail, qui leur redonne du lien social, et je pense que c'est un défi gigantesque. On a du mal à lire à travers le programme, puisqu'il en est resté à... Il a fait de la politique, c'est-à-dire qu'il a des grands slogans, des grandes promesses. Il va être confronté...
Mais derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce qu'effectivement, on l'a bien compris, Trump s'est fait ce chant de cette Amérique blanche, profonde, besogneuse, cette fameuse Amérique délaissée pour compte. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour eux, concrètement?
Il a promis de ramener les emplois aux États-Unis, de leur redonner du travail dans ces quartiers où il n'y a plus de travail, où le logement a été déprécié, etc. Donc il espère régler d'une part le problème migratoire, d'autre part renégocier les traités internationaux. Il a été élu démocratiquement, cette plateforme-là. On ne peut pas dire qu'il ait menti ou qu'il ait triché. Maintenant, il va être confronté. Je dirais que le politicien qu'il était devient un homme d'État. Et c'est à lui, maintenant, de montrer qu'il est capable de transcrire dans les faits ce qu'il a annoncé. Et je pense que le plus dur commence pour lui aujourd'hui.
Renégocier les traités, alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce qu'on le sait, il est très opposé, justement, au partenariat transpacifique, par exemple. Il veut renégocier l'ALENA, l'accord avec le Canada et le Mexique. Il veut mener une campagne. Il a mené sa campagne contre le dumping de certains pays, dont évidemment la Chine. Il veut remonter les tarifs douaniers. Il veut introduire même des procédures au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Mais dites-moi, c'est la fin du néolibéralisme, c'est la fin du libre-échangisme, Trump. D'ailleurs, ça devrait plaire aux gens de gauche, ici.
Le paradoxe, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que en France, on a plutôt les opposants à la mondialisation se trouvent plutôt à gauche, même s'il y a eu des recoupements en cours.
C'est ce qui nous semblait. Oui.
Et alors qu'aux États-Unis, Trump s'est fait l'avocat de la lutte contre la mondialisation.
C'est le recul du néolibéralisme avec cette arrivée de Trump?
Le recul, je ne sais pas. Est-ce que ça va reculer? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est perçu comme cela. Il a été perçu comme cela par une partie de la population, comme le seul capable d'enrayer cette marche forcée du néolibéralisme et de la mondialisation. Et sans doute là, je pense que Hillary Clinton aura des regrets de ne pas avoir entendu les messages que lui a envoyé la société américaine.
Marie-Hélène Baquet.
Oui, enfin, je pense que c'est pas la fin du néolibéralisme.
C'est sous forme de provocation.
Oui, mais le néolibéralisme n'est pas la disparition des États. C'est le fait que les États se mettent au service du marché. Et tout le discours de Trump, c'est un discours de marchandisation de la société qui est complètement néolibéral sur le fond. Parce qu'en même temps, dans son programme, l'État quand même disparaît. Il veut remettre en cause l'Obamacare. Les services sociaux sont très, très faibles.
Il veut considérablement baisser les impôts. On parlait d'inégalités. Voilà, a priori, quand même, c'est le meilleur outil pour réorganiser la redistribution.
Par exemple, les écoles seront de moins en moins... le système scolaire sera de moins en moins financé. Donc oui, on a encore des valeurs tout à fait néolibérales. Mmh. Mais il faut quand même rappeler dans le contexte que dans les élections présidentielles ont été quand même aussi marquées par une forte présence de Bernie Sanders et un autre courant qui était complètement à l'autre extrême, et que je pense que dans les débats qui vont venir maintenant, maintenant aux États-Unis, ce courant-là va sans doute aussi peser dans les débats politiques.
Anne-Marie Paquet-Déris et puis Romain Huret, j'ai vu que vous vouliez réagir. Anne-Marie
oui, non, je pensais juste que est-ce que cette série, si elle se passait actuellement, sous la présidence de Trump, je me demandais si le gouvernement, le budget fédéral aurait été utilisé de la même façon, parce qu'il a quand même, il s'est très souvent prononcé justement en faveur des communautés locales et de leur droit à disposer des fonds du de public housing, là, de tous ces logements sociaux. Donc ce serait, voilà, est-ce qu'il y aurait certainement dans la période contemporaine des divergences.
Romain Huret, et ce sera le mot de la fin.
Oui, rapidement, j'entendais juste ce matin les journalistes et les commentateurs américains refaire le match et dire que si Bernie Sanders avait été le candidat démocrate,
il l'aurait emporté.
Il n'aurait pas perdu les États anciennement industrialisés que Hillary Clinton a perdu hier soir.
Merci beaucoup à tous les trois. Hungry Hearts, c'est-à-dire les cœurs qui ont faim. Heureusement que vous êtes là, Anne-Marie Paquet-Déris.
Enfin,
un des morceaux qu'on retrouve dans cette série Show Me a Hero, un miroir des fractures américaines. Un grand merci à vous trois. Vous êtes déjà en train de partir. J'imagine que vous êtes pressés les uns et les autres pour aller vers d'autres plateaux. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir évoqué cette actualité internationale au prisme des séries télé américaines et en particulier de celle qu'il faut conseiller quand même aux auditeurs, qui est absolument excellente, Show Me a Hero, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Anne-Marie Paquet-Déris et Marie-Hélène Baquet, co-auteurs notamment de cet ouvrage The Wire, l'Amérique sur écoute, qui était paru à La Découverte. Merci également à vous, Romain Huret. Je rappellerai deux de vos ouvrages, La fin de la pauvreté, mais aussi Les conservateurs américains se mobilisent. Merci infiniment à tous les trois. Bruce Springsteen, c'est un peu difficile, mais bon, on repassera. On va trouver quand même aussi un autre personnage, hein, Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la Chine, comme depuis lundi, depuis le début de la semaine, et Xi Jinping, le premier secrétaire du Parti communiste et président de la République populaire de Chine. Comment le situer entre revival confucéen, dont vous nous parliez demain, nouvelle gauche, mais aussi libéraux occidentalophiles, Brice?
Eh bien, certainement pas Florian, dans la troisième catégorie en tout cas. Il apparaît même obsédé par ce qu'il nomme les forces étrangères hostiles. Peu après sa nomination au poste de secrétaire général, Xi a fait adopter en avril 2013 un communiqué sur l'état présent de la sphère idéologique qui est devenu célèbre en Chine sous le nom de code de document numéro 9. Destiné à demeurer confidentiel, il aurait été diffusé largement sur Internet par un journaliste, Gao Yu, accusation qui a valu à ce dernier une condamnation à 7 ans de prison. Or, ce document met en garde contre des idées extrêmement préjudiciables qui se répandent dans la société, à savoir 7 dangereuses valeurs occidentales. Il s'agit en particulier de la démocratie constitutionnelle, de l'indépendance de la société civile, des valeurs universelles et des droits de l'homme, du néolibéralisme économique, de l'indépendance de la magistrature et, je cite, « des critiques nihilistes portant sur le passé traumatique du Parti communiste chinois ». Ainsi, les archives se rapportant au grand bond en avant sont-elles désormais fermées aux chercheurs? La plupart des Chinois ne savent rien de cette initiative catastrophique de Mao Tse-tung en 1958 qui a causé une famine catastrophique, elle aussi responsable de la mort de 20 à 30 millions de Chinois. De même, les atrocités commises par les gardes rouges à l'époque de la Révolution culturelle à la fin des années 60 font l'objet, je cite le sinologue français Michel Bonin, d'un oubli officiel accompagné d'un gros travail de censure qui réussit dans une large mesure à entraîner une très grande ignorance du passé récent de la Chine chez les jeunes et les personnes d'âge moyen. Il s'agit, écrit encore Michel Bonin, de faire tomber la Révolution culturelle dans un trou de mémoire. Certains événements capitaux de l'histoire de la Chine communiste font également l'objet d'un refoulement éclatant, et c'est bien sûr le cas, de la révolte des étudiants de la place Tiananmen de 1989. 27 ans après, le célèbre rocker Cui Jian se voit interdit de reprendre à la télévision son hit de l'époque, « Rien en mon nom », qui avait servi de slogan aux manifestations d'alors. Mais dans le même temps, Xi multiplie les références à un passé communiste mythifié. Il vient de célébrer, par exemple, la mémoire de la Longue Marche, ce mythe maoïste fondateur auquel son propre père a pris part. Entamé en 1934 pour échapper à l'encerclement par les armées nationalistes, cette fuite à travers la Chine a permis plus tard la victoire en 1949. Mais si Xi convoque ainsi le passé maoïste, c'est qu'il veut mobiliser les vertus des combattants djihadistes au service d'une nouvelle longue marche aux objectifs qu'il a fixés. L'héroïsme, la force militaire, l'unité idéologique, la loyauté envers les leaders et la détermination. Quant aux objectifs en question, ce sont le soutien à la croissance, la lutte contre la corruption, le rétablissement d'un environnement plus sain.
Mais en quoi consiste, Brice, cette nouvelle longue marche? Ne me dites pas que le Parti communiste chinois se sent menacé d'encerclement.
Non, cette nouvelle longue marche est tournée, dit-il, vers l'intérieur. Des campagnes de rectification de style maoïste visent les médias et l'université. Au nom de la souveraineté numérique de la Chine, le Parti communiste a construit une véritable muraille autour de l'Internet chinois, désormais sous contrôle étroit. Ainsi, les Chinois sont-ils tenus à l'écart de l'espace public mondial sous prétexte de les soustraire aux influences étrangères. Alibaba y a remplacé Amazon, Baidu, c'est le Google chinois, Sina Weibo remplace à la fois Twitter et Facebook. La liberté d'expression y connaît des limites strictes. Comme la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping a ses usines à trolls. Le Parti communiste a en effet engagé une véritable armée de l'Internet qu'on dit forte de 2 millions de personnes. On appelle ça le parti des 5 yuan, ces patrouilleurs de l'Internet, car le prix, c'est le prix auquel serait rétribué chaque réfutation sur la toile d'une critique, même voilée, visant le Parti communiste ou ses dirigeants. Les blogueurs les plus audacieux de leur côté risquent des peines de prison et sont soumis à des séances publiques d'autocritique, comme l'a appris à ses dépens le célèbre businessman sino-américain Charles Xu, qui avait 12 millions de followers sur la toile en Chine. Xi Jinping apparaît comme un dirigeant qui tente en fait un grand écart entre l'héritage de Mao Tse-tung et celui de Deng Xiaoping. Il refuse de choisir. Dans sa théorie des deux périodes de 30 ans qu'il ne faut pas opposer l'une à l'autre, il est défendu d'utiliser les succès évidents accomplis par la Chine depuis la mise en place d'une économie de marché et les réformes de Deng Xiaoping pour incriminer les résultats désastreux de la période maoïste. Le Parti communiste, vous le voyez, a toujours raison, même lorsqu'il se contredit lui-même d'une façon évidente. Comme François Hollande au PS, Xi Jinping est le dirigeant des synthèses impossibles. Entre Mao et Deng, entre le communisme et le confucianisme, Lénine, c'est pour justifier le pouvoir sans partage du parti unique et l'obéissance de tous ses membres à la direction. Confucius, on lui emprunte le concept de société harmonieuse et de gouvernement méritocratique. En réalité, ce que révèle le tournant autoritaire pris par le régime depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping, c'est le sentiment de fragilité que ressentent les dirigeants chinois face à la baisse de la croissance et aux frustrations ressenties par de larges fractions de la population pas encore sortie de la pauvreté quand d'autres s'enrichissent d'une manière extravagante. Ils veulent reprendre le contrôle d'une société qui tend à leur échapper.
Merci beaucoup, cher Brice. Et d'ailleurs, j'indique que vous aviez consacré votre série la semaine dernière à Donald Trump. Maintenant que
de
il
quoi
est
Trump
président,
est-il de nom
voilà, maintenant qu'il
c'est
est président, ce que tout le monde ne croyait pas, c'est peut-être intéressant d'aller les réécouter. Merci beaucoup, Brice. On se retrouve demain.